a retrouvé nos amis là-bas. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé, comme on ne pouvait pas envoyer des lettres, mais des cartes interzone. J'avais fait une photo de mon fils à 3 mois. 4 mois. Et vous savez, à ce moment-là, on fait la photo aux enfants couchés sur le ventre, mais lui ne pouvait pas tenir la tête. Vous comprenez? La tête est tombée. Alors je lui ai fait assise. Et moi, j'étais derrière. Et je lui ai écrit, tu sais, ça c'est, je t'envoie la photo de ta cousine, Rosemary Joubert, avec son fils Marc. Donc elle a compris, elle m'a reconnue. Et qui voudraient venir chez toi te voir, me procure leur, puisque je ne parlais pas mon nom, un logement loin de toi, parce que dans son village, on nous connaissait, mon mari et moi. Ils savaient qu'on est mari et femme, et qu'on est polonais d'origine. Alors je dis, il ne faudrait pas qu'elle nous amène là-bas, parce que ça va nous jouer un tour. Et là-bas, justement, après, on a appris qu'il y avait... Donc, elle, qu'est-ce qu'elle se disait? Elle ne comprenait pas. Je ne pouvais pas. J'ai dit, j'amène la voiture. Elle a dit, tu n'as pas besoin d'amener la voiture, on viendra t'attendre. C'était la voiture, le landau. Landau des gosses. On a traîné comme des romanichels, vous savez, avec des paquets. On a passé par Lyon. On est arrivé avec les cars de Grenoble. On est arrivé en cours de route, il y avait une panne, et on a vérifié les papiers. Ils n'ont pas regardé de plus près. Et le gosse était arrivé à Lyon, il a été 8 heures dans les couches, mouillé. Je n'avais rien à lui donner au sein. J'avais un biberon, il l'a bu. Et arrivé là-bas, on est rentré dans un café là, et puis j'ai demandé si je peux le changer. C'est comme s'il avait ses fesses rouges, vous savez, plein de cloques. Et on a demandé où qu'on peut aller dormir. On nous a indiqué un hôtel, mais à cet hôtel, on a dit non, il n'y a plus de place. Mais comme c'était couvre-feu, comment faire? Elle a dit, écoutez, je vous donnerai mon commis. Il vous amènera dans un hôtel à téléphoner. Ils ont dit, il y a de la place. Et si on veut, lui dira qu'il vous amène à l'hôtel, parce que là, il n'y avait pas de place. On arrivait là-bas. Et bon, il nous amène dans une chambre. Et moi, je descends pour chauffer un biberon au bain-marie. Je demande la permission, je rentre dans la cuisine, une grande cuisine. Je vois la patronne avec un officier allemand. Ils sont en train de bavarder. Je dis, on est mal tombé. Ben, que voulez-vous faire? Et le patron, oui, dès que je suis arrivée dans cette chambre, j'ai déballé les couches du petit pour qu'il reste à l'air pour sécher un peu les fesses. Mais il n'était pas circoncis. Non, il n'était pas circoncis. C'est ça qui nous a sauvés aussi. Alors le patron, il monte pour que je remplisse la feuille. Et le petit, il était découvert et il gigotait avec ses jambes étant la vie qu'il n'est pas circoncis. Donc il n'y est pas venu à l'idée que nous sommes juifs. C'est ça qui me pend. On se couche. À minuit, on entend quelqu'un qui veut ouvrir la porte. On s'était dit, ça y est. Comme on a vu des Allemands. On a appris que c'est réquisitionné par les Allemands. C'est pour ça que les autres gens ne voulaient pas venir. Et alors, laissez taper. J'ai dit, qui c'est? Ah, ils ont dit en allemand, Entschuldigung, occupé. Bon, ils sont partis. À 6 heures du matin, on s'est levé. J'avais l'adresse justement de cette amie qui est venue hier, elle habitait à Lyon. Et on est allé directement avec les bagages chez eux. Elle, chez elle, n'y avait pas de place. Elle a dit, vous pouvez laisser les bagages ici. Elle a amené seulement les stricts et elle nous a envoyés chez leur ami qui avait un grand logement. Un grand logement et avait un bébé comme Dieu l'âge de mon fils. Là-bas, on a passé, je crois, 2 jours. On a pris le train pour Poitiers. On a changé dans la Haute-Vienne, je ne me rappelle pas comment ça s'appelait, c'était la capitale de Haute-Vienne. On a dormi de là-bas dans un hôtel aussi, hôtel pension. C'était l'hiver. Le petit, il a fallu laver en vitesse les couches et accrocher sur les radiateurs pour les sécher. Ça, on était bien, personne ne savait, personne ne cherchait d'ailleurs. Et après, on a pris le train pour Poitiers. Arrivé à Poitiers, pas Gilberte. Elle devait nous attendre là-bas. On viendra vous attendre. Pas Gilberte. Là-bas aussi, j'échange le gosse sur une table au café. Et je téléphone, je me suis rappelé là de, je ne sais pas comment, 5, le numéro 5 à Bertégon, c'était le marchand de vélo, tout ça, qui réparait les voitures, les vélos, tout ça. Je téléphone et je dis, je voudrais parler à Gilberte. Qui c'est? Je dis, Rosette. Ah, Rosette, ils nous ont connu, parce qu'on connaissait tous. Et Gilberte arrive, je dis, mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Je dis, mais... Tu as dit que tu viendras nous attendre. Ah oui, la voiture de papa est en panne. Prenez les cars. Et les cars s'arrêtent à la place. Et tout le monde, vous savez, quand les cars arrivent, tout le monde savait qu'on donne des petits paquets. Bon, on est descendu. Rosette avec un bébé, Charlot. Bon, on était là-bas chez eux. Et comme... Elle dit, pourquoi veux-tu aller ailleurs? Il y a cette place pour nous. Pour vous aussi. Bon, alors, pour ne pas rester à rien faire, je m'occupais, j'ai vendu, ils vendaient du lait. Donc, là-bas, il y a une habitude qu'on n'inscrit pas, ils ne payent pas toujours, mais une fois par mois. Quand il y a 30 coches ou 31 coches dans le bateau, ça veut dire qu'ils ont pris 30 ou 31 fois. Et un jour, moi, je dis, tu sais, Gilberte, tu as mal fait. Je t'avais demandé de loin, je dis, mais pourquoi? Mais personne ne veut faire du mal. Tu verras. Elle est allée avec les cartes d'alimentation prendre les denrées. Et il y avait l'épicière qui était l'amie du, anciennement, l'amie du maire. Et là-bas, il y avait un moment donné qu'on a déporté, qu'on a amené dans leur patelin tous les juifs de Nancy. Qui sont restés avec leurs baluchons, alors ils les appelaient les Romanichels, parce qu'avec les baluchons. Et une belle nuit, ou une bonne nuit, ils les ont emmenés en Allemagne, déportés. Alors, comme elle a montré les cartes d'alimentation, et il s'est rappelé de nous, d'avant, que nous étions tous les deux Polonais, mariés, mariés, femmes, et lui, il avait un autre nom, et moi, un autre nom. Moi, j'avais parce que lui, il s'était fait faire les papiers avant. Vous savez, comme Stasiv, Grégoire, naturalisé d'origine polonaise. Il était un soldat du Stalag. Vous savez, il a fallu qu'il sache tout. Au commissariat, quand il est allé chercher une carte d'alimentation, qu'il vient d'être relâché là pour raison de santé. Alors, on lui a posé des questions. Quel Stalag, quelle chose, il savait tout par cœur. Elle a vu des cartes différentes. Moi, juste avec le nom Joubert. Elle s'appelait Joubert. Moi, je ne pensais pas à ce moment-là, quand je donnais le nom, que peut-être un jour, je serais obligée de venir ici. Mais pourquoi on est parti? Parce qu'on nous a dit que la résistance va commencer là-bas. Vous savez, la résistance va... Comment qu'on dit ça? Le débarquement.
Ah oui.
Et le débarquement, enfin, avec le... Alors, ils ont commencé, quand nous sommes partis, on a appris que dans la rue, les Allemands arrêtaient les hommes et baissaient les pantalons pour voir s'ils sont juifs ou non. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup qui se procuraient des certificats médicaux. Même, alors, ils ne voulaient plus croire. Vous comprenez? Ils ne voulaient plus croire. Quand c'était quelqu'un qui avait ça, et il embarquait. Alors, nous sommes partis. Et arrivée chez eux, quand elle est allée acheter, elle a dit, « Sais-tu que tu détiens, que tu caches des Romanichels chez toi, Gilberte ?» Elle dit, « Quel Romanichel ?» Mais avant, ils étaient mariés femmes. Et maintenant, elle portait un autre nom. Elle ne voulait pas dire même ton nom. Parce que mon nom, Joubert, c'est le mari avec qui que j'étais mariée, soi-disant. Et Marco, il avait une carte de certificat de naissance, de baptême et de tout. Comprenez? Et
Bon, alors elle me...
Il dit, mais non, mais enfin, comme elle n'était pas de celle qui ira tout de suite voir plus. Bon, même si c'était ça, elle n'a rien dit. Alors quand elle est rentrée, elle a dit, tu sais, Rosette, tu avais raison. Il faudrait trouver un autre endroit. Parce que je ne vais pas, parce qu'eux aussi, ils auraient été... Oui. Elle dit, mais moi, je n'en sais rien. Elle dit, tu sais, s'ils étaient mariés, ils se disaient mari et femme. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Ce sont nos amis, et puis c'est tout. On les a connus à ce moment-là, tu les as connus aussi. Très gentils, très beaux. Ils sont réfugiés parce qu'il n'y a pas rien à manger. Ils sont venus ici parce qu'ici, on trouvera, on pourra, surtout avec un gosse. Alors, on a commencé à chercher, et finalement, elle a dit, tu sais, on a une cousine qui habite à 10 km d'ici, à 8 km, 10 km, qui a une maisonnette qu'elle n'occupe pas elle-même parce qu'elle est dans une maison qu'elle a achetée en rente viagère. Et elle pourra te louer cette maisonnette. Bon, elle nous a loué 200 francs par mois. C'était énorme à ce moment-là aussi. Et mon mari, il allait travailler chez les cultivateurs pour gagner un peu. Moi, on avait ramené quelques affaires qu'on a pu encore sauver. Et j'allais les vendre après, en vélo, à Poitiers, à Loudun, à Châtellerault, dans des petites villes, pour avoir quelque chose en plus, parce que mon mari ne gagnait pas grand-chose. Ce qu'il employait savait que c'est un Parisien. Donc un Parisien n'est pas un cultivateur, ne sait pas travailler. Mais lui, il travaillait mieux que les autres, il se dépêchait. Et les journaliers, comme journaliers, et les journaliers... Ils disaient, mais écoute, pourquoi tu te presses comme ça? Ils n'étaient pas contents, parce qu'ils ne fournissaient pas autant que lui. Mais il était payé la moitié, vous comprenez? Il l'exploitait aussi. Il ne fallait rien dire. Alors moi, je suis allée là-bas, mais là-bas, cette personne qui nous a loués, elle flairait quelque chose, parce que son fils, quand on était pendant le premier exode, était, comment vous dire, pas un journalier, il était au mois chez sa tante, à la campagne, une autre cultivatrice, à 4 km. Et il savait que nous allions acheter là-bas du beurre, des œufs, de lapin, du fromage de chèvre, tout ça. Il savait que nous sommes mariés et femmes, et nous sommes polonais, polonaises. Son fils, qui travaillait à Manu France, est arrivé un dimanche, le même qui a été à ce moment-là, gagé, comme il disait. Elle a dit, tu sais, j'ai loué la chambre à qui? Et tu sais, une amie de Gilbert qui était pendant en 40 chez eux. Ah, il dit, la Rosette. Et dit, oui, Rosette. Ah, la Polonaise. Et moi, avec le papier, née à Montpellier. Parce que je peux rouler l'air, il dit à Montpellier. Bon, elle ne dit rien, mais elle veut tout savoir. Et c'était une méchante langue. Alors, un jour, comme je n'avais pas de points pour acheter, je n'avais pas de scie, il fallait avoir une scie pour scier le bois, tout ça, tout de suite, dans une campagnarde qui habitait dans cette campagne, qui avait déjà 11 gosses, mais très gentille. Elle m'a prêté une vieille cuisinière. Un voisin m'a vendu un ster de bois, qu'il fallait scier, tout ça. Après, c'était le maire qui m'avait vendu un ster de bois. Mais je n'avais pas de scie. Alors, elle a dit, écoutez, vous irez à Mirbeau, vous vous adresserez à Savigné, Savatier, je ne me rappelle pas, il dit, vous direz que vous venez de ma part, il vous vendra ici 100 points, 100 cartes de points. J'ai dit, je l'ai perdu. J'y vais là-bas. Et lui, c'était un petit peu un coureur de jupons. Et il commence à me parler. J'avais tant d'années de moins. Vous savez, mon fils, il va avoir 36 ans. Il avait à peine 2 ans à ce moment-là. Alors, il tâte le terrain. Et moi, je lui réponds du tic tac sans rougir. Oh, j'ai dit, monsieur Savatier, si j'avais 10 ans de moins, j'aurais pu vous croire à ce que vous dites. Mais maintenant, ça ne vaut plus la peine. J'ai dit, je suis mariée et j'ai un fils. Et c'est tout bon. Alors, elle, la foire après, elle va là-bas, puis elle revient. Elle dit, vous savez, madame Rosette, vous avez tapé dans l'œil de Savatier. Il m'a demandé de quelle origine êtes-vous. Je dis, qu'est-ce que vous avez répondu? Je dis que vous êtes polonaise. Je dis, polonaise, d'où est-ce que vous avez pris ça? Je parle mal français. Vous êtes sûre que vous êtes déjà française de génération, hein? Mais vous dites, il faut que je m'en aille. Il ne faut pas dire, il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille. Vous dites, les hauts. On ne dit pas les hauts, c'est un H aspiré. Enfin, je l'ai mise à plat avec ma connaissance. Je ne savais pas quoi répondre. Mais j'ai dit, vous savez, Madame Cécile, vous êtes une amie pour moi, à vous, je peux vous dire. J'ai dit, si vous ne me croyez pas, allez-y à la mairie. Demandez la secrétaire. Mais ça vous intrigue que je m'appelle Joubert à la carte et que mon mari s'appelle autrement. Alors, je vais vous dire la vérité. Je vivais maritalement avec Charlot, enfin mon mari, avant. Mais il était tellement jaloux, j'ai dit, que je ne pouvais pas supporter cette jalousie et je suis partie, sans lui laisser l'adresse. Mais j'ai eu, sans réfléchir, j'ai écrit une carte au voisin, un bonjour. Et je ne me rappelle pas si j'ai envoyé l'adresse ou s'il l'a retrouvée. Ils ont vu le cachet de la ville, d'où est-ce que c'était envoyé. Alors eux, ils lui ont dit où que je me trouve. Il est venu là-bas. Mais entre-temps, j'ai connu un jeune homme qui s'appelait justement Joubert, qui m'a plu, qui me disait qu'il m'aime et tout ça, et on s'était mariés. Donc je le quitte. Mais lui, il travaillait à l'usine et toujours il disait qu'il va travailler dimanche faire les heures supplémentaires et c'était une autre avec une qu'il côtoyait. Et quand j'ai appris ça, je lui ai montré la porte. Alors elle dit... Mais entre-temps, j'ai dit quand lui n'était plus, je ne voulais plus l'accepter, j'ai dit que j'élèverais mon gosse toute seule. S'il était capable de faire quelque chose comme ça, me baratiner même, tout ça. Alors là-dessus... Charlot est arrivé, avec le cachet de la ville, il est allé à la mairie, il a demandé où c'est qu'il habitait telle personne, et il m'a retrouvé. Quand il m'a retrouvé, il m'a dit « Pourquoi es-tu partie ?» Il m'avait déjà avec. Non, j'étais enceinte. Et il a vu que je suis enceinte, il m'a supplié de revenir, que mon fils sera son fils. Il fallait trouver. Oui. Et puis comme ça, elle m'a laissé tranquille. Mais ce n'était pas tout encore. Quand c'était la veille de Pâques, moi, pour faire croire à tout le monde que je suis catholique, c'était le dimanche, j'avais reçu de l'osée de ces médecins. Non, un ami qui habitait à... Oui, une layette que j'ai reçue tout en bleu, avec un burnou en bleu, tout ça. Je l'habillais et j'allais à l'église. Avec les landaux, je laissais les landaux devant et Charlot, quand il est rentré du travail, dimanche après-midi, quand il voyait les landaux, il se disait, ça y est, Rosette était à l'église. Et comme moi, je connaissais le latin, j'ai pris le livre, elle m'a prêté le livre de prière, où il y avait d'un côté en français, de l'autre côté en latin, et je regardais comme ça, qu'est-ce que les autres font quand elles s'agenouillaient, moi je m'agenouillais aussi. Et je disais la messe en latin. Et les autres, quand je le disais exprès, un peu plus fort, qu'on entende. C'était convaincu, ça c'est quelqu'un qui est catholique. Il y avait le missionnaire pour planter la croix de calvaire là-bas. Il vendait les croix. Moi, j'étais celle qui a donné 10 francs à l'époque. 10 francs, c'était une fortune, tandis que les autres donnaient 50 centimes, 1 franc. Et je chantais les cantiques. Quand on allait, je me suis habillée. Et puis un jour, je suis allée dans la cour casser du bois. Et mon mari gardait comme il est venu. J'ai dit, tiens, vas-y. Il a dit, je vais te casser les bois. J'ai dit, laisse-moi, je vais aller casser du bois. Toi, amuse-toi avec le petit. Le petit, il a été découvert sans être circoncis. Mais il y avait, j'ai accroché la croix au-dessus du lit. Alors, il a vu la croix accrochée. Il arrive. Il demande, alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Marc-Joseph. Est-ce qu'il est baptisé? Il dit, je ne peux pas vous dire, monsieur, mon père, parce que quand il est né, moi, j'étais prisonnier de guerre. Et je ne sais pas, c'est ma femme qui fait. Ça ne fait rien, mon petit. J'étais bénie quand même. Il a fait le signe de croix, j'étais bénie quand même. Il ne m'a pas attendu ni rien. Et elle flairait toujours. Elle n'était pas sûre du tout. Un jour, elle me dit, vous savez, Madame Rosette, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous êtes espionne. Espionne, mais pourquoi? On vous voit vous absenter à Loudun, à Poitiers, à L'Encloître, à ceci. Je dis, Madame Cécile, La guerre vous a trouvé ici et vous êtes resté ici. Vous n'aviez pas besoin de fuir d'une place à l'autre. Vous n'êtes pas réfugié. Moi, vous savez ce que je fais lorsque je m'absente? Je vends mes affaires, les restes d'affaires que je pourrais les porter et que je ne les porte pas pour pouvoir obtenir quelques francs, pour arriver à subsister parce que mon mari ne gagne pas assez. Là, elle a fermé le bec. Mais je me suis dit, il ne faut plus que je reste là. Et j'ai déménagé, j'ai cherché partout ailleurs. Je n'ai pas trouvé. Enfin, je suis allée, je me rapprochais vers ma... dans le patelin où son fils a été chez la tante, mais chez quelqu'un d'autre. Et après la guerre, je lui ai dévoilé. Je suis allée après la guerre rendre visite à tous ces gens-là. Je lui ai dit, Madame Cécile, vous aviez voulu savoir trop. Il ne fallait pas trop demander. Alors j'ai inventé tout des... Et vous voyez, vous vous êtes laissé prendre. Mais ce n'est pas gentil ce que vous avez fait. Parce que même si vous avez soupçonné, nous sommes des êtres humains comme vous, on a la même valeur. Mais il y avait les malheurs d'Hitler. J'ai dit, alors elle était un petit peu honteuse. Elle n'est plus de ce monde aussi. Mais c'était une méchante femme. Elle n'aurait peut-être pas, elle nous aurait peut-être pas vendu elle-même. Mais de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Et même quand j'habitais à Vizille, avant de venir ici, ça c'était déjà ce que je lui ai raconté, c'était déjà la chanson que j'ai appris, que j'avais préparée pour les agents de police qui sont venus chercher mon mari dans ce village. Et lui, il était inscrit à la mairie. Mais il est allé avec les faux papiers travailler dans la ferme. Et la propriétaire nous aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on payait 200 francs par mois, tandis qu'un Français payait 50. Et je lui ai amené d'autres locataires aussi. Et je lui ai donné, comme je recevais 1 demi-litre de lait par jour, je lui ai donné 1 verre de lait pour elle. Vous comprenez? Alors elle était bien avec nous. Et elle savait que nous sommes juifs. Alors un jour... Marco, t'as loupé les bons goûters qu'on avait mangés.
Oui. Mais moi, je me suis...
Elle a dit, il y avait des agents de police qui demandaient après mon mari. Il dit, oui, je l'ai vu une fois, mais je ne le vois plus. Il ne revient plus. Ils ne sont pas montés. Mais une autre fois, ah oui, alors ils sont venus me voir, moi. Il dit, où qu'il est votre mari? J'ai dit, je ne sais pas où qu'il est. Non, ils ne sont pas montés. Ils ne sont pas montés. Mais une autre fois, lui, il m'avait apporté, il est venu, il m'apportait toujours du vin. Je vous ai raconté peut-être ça, qu'il était berger, mari, oui. Alors, il est venu une fois, puis les soirs, il est allé voir les autres juifs, les copains, bon, parler politique, ceci, cela. Et il m'a fait les commissions, il a dépensé jusqu'au dernier sou. Et c'était couvre-feu. Et il a oublié, ils ont parlé, il a oublié, c'était déjà couvre-feu. Alors, il y a un agent qui l'arrête. Et il dit, vos papiers, il monte les papiers, bon. Où c'est que vous allez? Il ne voulait pas dire qu'il va chez moi. Il a dit, je vais à l'hôtel. Montrez si vous avez pour l'hôtel. Il n'avait pas d'argent. Alors, il lui dit, non, écoutez, monsieur, j'avais honte de vous dire. J'ai une amie ici où toutes les semaines, je viens la voir. Bon, alors venez, vous allez vous expliquer à la gendarmerie. Il est allé à la gendarmerie, il y a les chefs qui les demandent, où vous travaillez, tout. Ils ont téléphoné là-bas. S'il travaille effectivement dans cette ferme, ils ont répondu oui. Il est parti chez son ami. Donc tout a tout allé. Bon, alors accompagnez-le, ce couvre-feu, pour qu'il ne soit pas arrêté une autre fois. Alors, et montez voir. Alors, non, ils n'ont pas eu, accompagnez-le. Alors lui, il a dit, ben, je voudrais monter voir où que vous êtes. Alors, il a dit, moi, j'habitais à un petit premier étage. C'était un étage, là aussi, vous savez, demi-étage. Oui. C'était son lit. Il attendait, moi, je connais l'escalier, je vais allumer là-bas, je vais vous laisser la porte ouverte. Et dès qu'il est rentré, il a dit, Rosette, j'étais au lit avec les petits et que je lui donnais les seins. Il dit, Rosette, il y a quelqu'un avec des boutons dorés. Boutons dorés, je savais que c'est un policier. Et toi, qui es mon ami. Bon. Alors, il est venu. Et, madame, vous connaissez ce monsieur? J'ai dit, oui, c'est mon ami. Alors, il est resté comme ça. Il dit, ça vous étonne? Je dis, écoutez, j'étais enceinte et mon mari, légal, enfin, je veux dire, il m'a abandonnée pour une autre. Et ce monsieur qui est devenu mon ami, il a dit qu'il veut m'aider à élever mon gosse. Ah, bon, ça va, il est parti.
Mais je ne me rappelle pas qu'il y avait aussi deux agents à qui que j'ai dit que je leur ai raconté la même chose, que j'ai connu lui et qu'il a eu le... qui m'a embobiné, qui m'a fait un enfant, il s'est marié, bon, et puis il m'a abandonné. Alors il voulait me remonter avant encore que c'était ce cas avec mon mari. Il dit, oh, vous savez, madame, il reviendra, il reviendra. Je crois que j'avais... Ah oui, je crois que j'avais déjà les faux papiers, mais on n'était pas encore parti. Il reviendra, il reviendra. Oh, je dis non, maintenant, je n'ai plus besoin de lui. Je lui démontrerai que je n'ai pas mon enfant. Bien sûr, mon ami m'aide beaucoup. C'était bien.
Et donc, vous êtes resté jusqu'à la fin de la guerre
Jusqu'à la fin de la guerre dans la Vienne, dans le département de la Vienne. En 45, je crois, oui. On avait... Mon mari travaillait d'abord après la libération. Après la libération, on a repris notre identité. Et mon mari travaillait comme...
Et vous êtes remontée à Paris.
Oui. Il travaillait comme tailleur, un petit peu aidé. Alors, il ne prenait pas d'argent. Il prenait ou des œufs ou de la farine ou de la cochonaille. Et puis, nous, on a élevé des oies. Quand on est rentré avec un chargement. Les maires nous ont donné un certificat, une attestation comme quoi que nous sommes réfugiés et qu'on a le droit d'amener tout ce que nous avons. Même le bois qu'on a amené. On n'avait pas où rentrer. Et moi, j'étais avant là-bas pour obtenir les clés de notre logement. Il a fallu payer de l'argent. Parce qu'il avait donné ce logement, la loi allemande lui a permis de louer le logement des Juifs, sinon pas payer 6 mois. Mais comme nous, on avait peur d'envoyer de l'argent pour qu'ils ne connaissent pas notre adresse, on n'a pas payé. Il a fallu payer et payer pour tout le temps. On a payé 6 000 francs. Alors pendant que moi je suis partie, le voisin qui avait pris la possession nous a rendu, il a déménagé, on nous a rendu ces quelques meubles qui ne valaient rien, mais tout ce qui était des valeurs. Une tête de machine, mes valises, tout ce que j'avais laissé a disparu. C'était la concierge même qui a pris. Parce que quand j'ai envoyé cette Roumaine, cette Française, de prendre des valises et que je ne les ai jamais eues, elle a dit, vous avez envoyé quelqu'un avec... J'ai dit, il n'y avait pas une dame qui est venue avec les clés pour qu'elle prenne les cartes d'alimentation. Oui, il y avait une dame qui est venue, mais elle ne voulait pas. C'est pas vrai, elle m'a raconté après qu'elle lui a fait peur. Elle a dit, vous pouvez monter si vous voulez, moi je ne suis pas responsable. Si les inspecteurs passent et qu'ils vous attrapent, c'est vous qui payerez. La Française, elle s'était dit, bon, écoutez, elle dit, je vous laisse les clés et vous serez gentil de donner à la dame, la Roumaine, la juive roumaine, ce qu'elle demande, les cartes d'alimentation, elle veut avec la valise. Pensez-vous, elle a dit, moi je ne voulais pas les clés, elle voulait me les donner, je les ai jetées dans les égouts. Et la voisine, l'Alsacienne, qui habitait porte à porte, elle a entendu toute la nuit, vous savez, à pas feutrer, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Savez-vous ce qu'elle a laissé? Les bobines de fil avec lesquelles on se servait pour la machine surjeteuse. Que je travaillais, je faisais les tricots pour gagner, comme mon mari, je vous ai dit, ne trouvait pas de travail avant, donc il fallait vivre. On a permis de travailler que 3 jours. D'abord, même, ils n'ont rien dit. La résistance, ni le Parti communiste n'a rien dit, on pouvait travailler. Mais tout ça, ça allait pour les Allemands. Ce n'est pas les Allemands qui se servaient de ces choses-là. Nous, on faisait un travail qui c'était presque saboté. Ce n'était pas de pull pour les hommes, on disait pour les soldats, c'était pour les enfants. Mais eux, ils l'échangeaient contre autre chose. Ils savaient, ils n'étaient pas dupes. Il fallait simplement avoir la marchandise. Et c'est comme ça, on avait des patrons qui se sont enrichis. Les uns, nous, on travaillait, on gagnait pas mal avec ceci. Alors, les bobines vides qui servaient pour desquelles qu'on avait les laines ou autre chose, c'est ça qu'elle a rendu. Et que je vous ai dit que j'ai même reconnu une casserole, un pot à lait que j'ai reconnu. Et j'ai dit, tiens, on aurait dit que c'est mon pot à lait chez la concierge. Elle disait qu'elle n'a pas les clés. Et finalement, la sœur du propriétaire qui est venue nous ouvrir, parce que j'ai dit, j'ai besoin des papiers, ils ont remonté ce qu'ils ont délogé. Mais elle s'était servie avant, vous comprenez? Mais elle avait une cuisinière où on enfonçait, vous savez, dans le rond. Mais elle n'était pas très intelligente. Quand elle a voulu rendre ces pots duquel je parlais, elle ne l'a pas bien nettoyé. On voyait tout autour le rond de la saleté provoquée par les charbons ou le bois, vous savez. Là-dessus, j'ai reconnu qu'elle. Et puis la voisine, elle a dit, elle s'est servie toute la nuit en entendant ça. Et les autres, enfin. Bon, bref, on est venu quand même à Paris avec un chargement. Comme si on avait une ferme entière. du saucisson, de 50 kilos de pâtes, de purs œufs et farine tamisée à 4-0. Vous savez, moi, je ne les faisais pas. Mon mari procurait les œufs et la farine. On allait tamiser chez un cultivateur. On avait une amie qui savait le faire. Alors, on partageait. Il y avait deux amies. On partageait. Chacune avait... Chacune est rentrée avec 25 kilos et nous, on avait 50 kilos de pâtes. Et comme c'était l'été, on étalait un drap propre sur l'herbe et on séchait ça sur l'herbe. On est rentré, c'était délicieux. Avec une poignée de pâtes, 4 personnes pouvaient manger assez parce que les œufs, ça gonfle, vous savez. On est rentré avec 10 volailles. Oui, que je me rappelle.
C'était sur quoi tout ça?
Vous aviez
dans les carrioles?
Non, dans le train. On a donné les bois, c'était au bagage. On avait 20 kilos de saucissons avec la graisse d'oie et la viande d'oie, vous savez, et les cochons ensemble. Et on les a nous-mêmes, parce que quelqu'un nous a prêté un moulin à viande, avec la bouchère nous a donné les tuyaux, vous savez qu'on fait des saucisses, comme les chipolatas, tout ça, et avec un entonnoir comme ça, vous tournez, et ça se remplissait. Mm-hmm. Et après, dans la cheminée, pendant 3 nuits, on les faisait faisander, vous savez. Et donc, quand on a mis ça dans une valise, on voulait les donner au bagage. Il y a celui du bagage, vous savez, quand on donne à la consigne, en attendant, il a dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, mais vous savez que nous sommes des réfugiés, on a le droit d'amener ces des saucissons. Je ne vous conseille pas de les donner en bagage. Vous ne les retrouverez pas, parce que ça sent tellement bon, ça embaume. Alors prenez-les avec vous. Il était honnête. Je lui ai arraché un saucisson comme ça, puis je lui ai donné. Et quand on était dans ces compartiments pleins, on disait, ça sent bon, on mangerait bien ceci. 60, je vous le jure que je n'exagère pas, 60 douzaines d'œufs dans un caisson, emballé dans de... Pas de la paille, mais comment que ça s'appelle vous savez, le truc, le son du battage, vous savez.
Il y en a aucun cassé.
Il y avait 15 douzaines de cassés. Je ne te dis pas. Et vous savez, 15 douzaines, hein? Pas une douzaine, mais 15. Alors, j'ai distribué à gauche, à droite, pour qu'ils fassent des gâteaux. J'ai dit, mais je ne peux pas les garder, ça va s'abîmer. On avait peut-être 10 sur 15 bouteilles d'huile. Parce qu'il travaillait et puis il ne voulait pas. Donnez-moi ceci, donnez-moi ceci. J'ai fait même moi-même du savon. Qu'on m'ait donné la graisse. Mon mari qui a été une fois à Paris, après la libération, il a acheté la résine et la soude caustique. J'avais appris, je ne sais pas par qui, que j'ai appris comment faire les savons. Il m'a donné du bois pour que je puisse sur ma petite cuisinière et puis un chaudron. Et tous ceux qui m'ont donné la graisse et le bois, je partageais aussi. On faisait 50-50. J'ai eu je ne sais pas combien de kilos de savon. Après, on avait pendant 2 ans. Je n'avais pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Et les volailles, on avait 2 canards, 2 oies, des poules.
Mais sans véhicule, ils ont pu emmener tout ça.
Comment qu'on l'a amené? On a entassé, on a acheté un cajou, vous savez, qu'on prend comme pour accrocher dans un cellier, vous savez, avec une fille, la toile en fil. Fil de fer, métal, oui. Vous savez, est transparent, pour que ça puisse prendre de l'air.
Oui, oui.
Hein? On a entassé la tank tant qu'on pouvait. Et on avait encore dans les filets. Ils nous ont, les Français, ils étaient très gentils, là, justement, qu'on a gardé les... Ils nous ont même prêté quelques 1000 francs. Elle nous a prêté, elle nous a donné un moulin à café, elle nous a donné du bois, elle a donné de la vaisselle si vous n'en avez pas. Et vous n'avez pas d'argent. Je vais vous prêter combien voulez-vous? Je vous donne 5000 francs, c'était beaucoup, hein? Elle a dit, ne vous pressez pas de me les rembourser. Vous remboursez quand vous pourrez. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas oublié. Ce n'est pas comme j'avais lu que dans un endroit, dans les Cévennes, il y avait des enfants juifs cachés. Les parents qui sont venus les chercher après, et tout ça, il n'y avait personne de déporté. Et les curés faisaient tout, il y avait encore des sœurs. Et ils n'ont pas remercié, ils ne sont pas venus après la guerre. Pardonnez. Maintenant, ils ont fait une stèle, en hommage à ces curés qui allaient. Mais les curés, il a laissé quelques mots, il dit... Où étaient-ils tout de suite après la guerre? Et les autres ont dit, mais nous, on n'a jamais oublié. Et jusqu'à aujourd'hui, pour tous les ans, pour Noël ou jour de l'an, ils sont 5 familles, enfin la grand-mère, elle est seule déjà, mon amie, elle est morte, mais son mari est là. Ils ont 3 enfants, donc 3 familles aussi, 5 colis de fiançailles que je connais. Quand elle était morte, je suis allée à son enterrement. On m'a mis parmi parmi la famille, j'étais à côté de son mari. La belle-sœur était derrière et moi, j'étais à côté. Tellement il nous estime beaucoup. Mon mari l'a dit, je n'oublierai pas maintenant. Il dit, si j'ai quelques jours, j'irai le rendre visite. Il a envoyé des complets, il a envoyé des complets de travail.
Combien de temps vous êtes resté chez eux en tout?
On est arrivé en janvier 44, on est parti vers septembre 45. Mais jusqu'en 44 et 42, on a été en zone dite libre. Mmh. Voilà. Arrivé à Paris, il fallait que je m'occupe de mon fils. Même déjà là-bas, j'ai commencé à courir.
Ça faisait presque 2 ans cette histoire, vous êtes resté chez
eux. Oui, presque, disons, 1 an et 9 mois. Mmh. Déjà là-bas, j'ai commencé parce que j'ai remarqué.
À Bertégon.
Non, c'était à Bertégon, à Verrue et à la loge.
Oui, enfin, tout ça, dans un an, quoi.
Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Et puis, ma foi, quand on est revenu, mon mari, il portait un pantalon que j'ai confectionné, moi, dans 2 sacs de pommes de terre. Les paysans lui ont donné 2 sacs de pommes de terre vides. Je les ai bien lavés. Lui, il les a taillés, tant bien que mal, il n'est pas tailleur pour homme. Mais il est arrivé et avec 2 poches ici. Moi, avec une aiguille à sac. Je les ai cousus. Et avec des galoches. Je ne sais pas des galoches, mais comment ça s'appelle? Des brodequins. Mm-hmm. Vous savez, c'est brodequins avec du semelle de bois. Et moi, j'étais... Maintenant, je suis grosse, j'ai grossi. À ce moment-là, moi qui pesais avant 44 kilos, je suis revenue plus rondelette encore que maintenant. Je ne pouvais pas rentrer si on a trouvé une paire de chaussures à la maison qui ne leur servait pas parce que ce n'était pas une chaussure neuve. Je ne pouvais plus rentrer parce que je portais des chaussures avec un semelle de bois, fourrure de lapin et raffia en dessous. Pas, je n'avais pas de bas. En hiver, en 44, il faisait un froid de canard, je n'avais pas de bas. C'est pour ça que ma circulation, depuis sa naissance, et après les froids, tout ça, ça a saisi. J'avais des jambes rouges, vous savez, comme des tomates. Les gens là-bas, ils disaient, comment vous marchez sans bas? Mais je dis, mais j'en ai pas. Mais ils n'ont pas dit, on vous donnera une paire de bas. Ils portaient des bas en laine, vous savez. Alors, entré, il a fallu... On ne savait pas où mettre tout ça, ce qu'on a apporté, on n'avait que 2 pièces. On a mis la volaille, on avait comme cuisine, c'était un placard. Et en dessous, il y avait pour les ordures et pour les... J'ai enlevé les ordures et j'ai mis là-dedans les volailles. Et tous les soirs, j'étais obligée de nettoyer tant que je les avais. Chaque fois, quand on avait besoin, on demandait à une voisine de tuer, parce que nous, on ne peut pas tuer. Et comme ça, après, mon mari a trouvé un peu de travail. Dans la couture, oui. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait après la guerre? Qu'est-ce que je travaillais du tout? Pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Je me suis procuré une machine, vous savez, il y avait le joint qui distribuait. Mm-hmm. Je suis allée là-bas demander, j'ai dit je ne veux pas de secours, du travail n'en manque pas, parce qu'on avait besoin. Et puis ils m'ont vendu une machine, très bon marché, et que je commençais à prendre du travail, et mon mari travaillait. Comme il n'avait pas de machine. Il n'y avait pas de machine parce que l'autre, on était obligé de la vendre pour avoir de quoi manger. Celle que je lui avais envoyée, oui. Oui. Et la deuxième qui est restée, alors c'est la concierge qui l'a pris, il n'y avait pas de trace. Alors tant qu'il n'avait pas de machine, il est allé chez une amie qui habitait dans l'autre zone, que nous on lui avait trouvé, dont le mari est parti avec mon mari, vous vous rappelez que je vous ai raconté.
Frigorifique.
Et elle aussi, elle est passée, je ne sais pas comment, ou c'était pas avec moi qu'elle a passé la ligne de zone de démarcation. Et on lui a même procuré aussi un logement chez un autre Arménien. Alors, lui, son mari, il a été tué par la milice. Ils sont allés, lui est habillé en salopette, ils sont allés dans un endroit chercher des ravitaillements. C'était 4 hommes de notre village, là où nous étions avant, à Vizil. Et ils sont allés ailleurs, ils sont rentrés à midi manger dans un restaurant. Ils ont vu arriver les miliciens qui demandaient les papiers. Alors, eux, ils sont dit de sortir. Et les miliciens l'ont remarqué, ils ont couru derrière. Un qui s'était sauvé, il était très grand, il a sauté un parapet, enfin, vous savez, une cloison. Celui-là, il était en Israël. Et les 3 autres ont été tués. Et son mari parmi. Alors, elle est restée seule. Et elle avait dans son intérieur, enfin, la
palme.
Qui la connaissait pas. Elle avait 2 machines. Alors, comme elle savait aussi travailler à la machine, elle a dit, si tu n'as pas où travailler, viens. Et puis, comme ça, après, on a acheté une machine. Et moi, je travaillais en attendant les tricots. Comme ça, j'ai gagné.
À domicile,
oui, très bien traqué, oui. Non, après, quand ma soeur en 47 est venue, que nous l'avons amenée, parce que j'ai appris, je ne sais pas si je vous ai raconté, je crois que oui, comment que nous nous sommes rencontrés par intermédiaire d'un ami qui était en Pologne.
Oui.
Alors je l'ai amené ici. On lui a, au début, on était tous ensemble dans ces petites deux pièces. Mais les enfants, on les a envoyés. On était un temps court. Ils étaient avec nous pour être avec les enfants. Après, on a trouvé, ils l'ont pris dans un home d'enfants. Vous savez, les gosses. Elle est restée avec nous. Et on lui a laissé notre logement. Et nous, on a pris un plus grand. Un plus grand. Et elle travaillait chez elle. Elle travaillait aussi très dur. Après, elle a pris les enfants avec elle. Elle vous racontera elle-même. Si vous la verrez, elle vous racontera elle-même. Je pense que je vais téléphoner à ma sœur.